Dieu est bon. Nous avons vécu vraiment des vacances très ressourçantes. Et du coup, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Je voudrais vous partager. Il se peut bien que cette pensée, j'ai à la continuer dimanche prochain. Il s'agit d'apprendre de Dieu pour surmonter les crises. Nous vivons une crise, la crise sanitaire qu'on connaît. Il y a une crise sociale qui est là, à nos portes. Crise économique, certainement. Mais au-delà de toutes ces crises, il y a aussi des crises personnelles que nous vivons tous. En fait, les crises font partie de la vie. Mais les chrétiens ont à apprendre à vivre les crises comme Dieu vit les crises. Et c'est ça que j'ai à vous partager ce matin. Je vais commencer juste par définir ce qu'est la crise pour que nous comprenions de quoi on va parler. On désigne par crise tout événement qui survient brusquement, qui provoque une déstabilisation d'une organisation, d'une personne, d'une entreprise, et qui s'accompagne d'une forte charge émotionnelle faisant perdre à cette organisation ses repères. Une crise fait perdre des repères. Et une charge émotionnelle, ça nous déstabilise, c'est soudain. Mais la bonne nouvelle que j'ai à nous annoncer ce matin, c'est que Dieu n'est pas déstabilisé par les crises. Nous traversons tous des crises et c'est important que nous intégrions le fait que ces crises sont des occasions pour Dieu pour nous permettre de grandir. Je voudrais que nous fassions un 360 sur le regard que nous avons sur les crises en général. Celle-ci, celle qui est sanitaire, mais toutes nos crises. Nous en avons traversé, certainement que vous en traversez, mais situez-le dans quelque niveau que ce soit. Vous pouvez être ado et vivre une crise d'adolescence, on appelle ça la crise d'adolescence. C'est important que vous appreniez comment Dieu traverserait la crise que vous êtes en train de traverser. Comment Jésus traverserait la crise que vous êtes en train de traverser. Moi, je vais commencer par mon témoignage. J'ai traversé juste là, je suis en train de traverser la crise de la cinquantaine. C'est la crise psychologique. Et nous traversons tous ces crises. C'est une crise de la cinquantaine où on se pose des questions sur ce qu'on a fait. La quarantaine, je l'ai vécu aussi. Alors j'avais cru avoir traversé sans que ça fasse rien du tout. J'étais plein de feu, etc. Mais cette crise-là, elle est venue me traverser à moi. Qu'est-ce que tu produis ? Vous savez, je vois mes beaux-parents qui sont là. Je viens de perdre, j'ai perdu il y a quelques années mes deux parents. Nous vivons à côté de mes beaux-parents qui sont, eux, ils vont aborder la crise de la 80-antaine. Je les vois faire, je les vois vivre. Et ça me travaille, moi, sur les 50 années passées, les 30 qui sont là devant, à me demander le sens à ma vie, ce que je fais, le poids que ça a devant Dieu, à mes propres yeux. Est-ce que je réussis, C'est des questions profondes qui sont des crises. Et dans cette crise, je me suis remis profondément en question, sincèrement. C'est venu me déstabiliser, mais pas au point de m'enlever la perspective. Vous savez ce que j'ai fait ? Et c'est ce que je vais vous partager à la fin, tout au long de cette prédication. Il s'agit de regarder cette crise honnêtement, de se laisser traverser par Dieu, de vivre des moments de réajustement qu'on appelle, la Bible appelle ça la repentance. Tirer des leçons et courir la course avec Jésus. Nous traversons tous des crises. Je ne sais pas quelle crise tu es en train de traverser. Les enfants traversent, on appelle ça des crises de croissance. De 3 à 12 ans, il y en a même qui ont des douleurs aux genoux. Parce qu'on grandit, c'est des crises. Et Dieu voudrait que nous apprendre à vivre à chaque fois des crises de croissance, que ce soit une occasion d'apprendre, de progresser, de grandir, d'aller plus loin, de lui ressembler davantage et de l'accueillir davantage dans nos vies pour finir la course à chaque fois avec quelque chose de plus qui nous a transféré. Alors je veux pas aller trop vite, juste nous laisser vous situer la crise dans laquelle vous êtes. Peut-être même qu'avoir un enfant, je vais juste faire un clin d'œil à Karine et Romain, avoir des jumeaux, c'est une crise. Alors, c'est pas subi, c'est pas dans le sens un événement brusque, mais quand même, avoir des jumeaux, c'est une crise. Et on a à apprendre des choses pour réussir à traverser. Que ce soit une crise de croissance, que ce soit bénissant pour toi et bénissant pour les enfants, si c'est pour les Biava, mais pour tous ceux qui t'entourent à chaque fois, que ce soit l'occasion de grandir. Tu peux vivre une crise dans ton couple. Fais de cette crise une crise de croissance. Est-ce qu'on peut encourager celui qui a dit Amen, là? Quel est notre regard, notre grille de lecture, notre attitude sur la crise que nous traversons? Parce que si nous gérons mal cela, ça peut nous conduire à la dépression. Ça peut nous conduire au découragement. Ça peut nous conduire à l'abandon. Je vais nous donner des clés pour bien le gérer et le faire avec notre Dieu. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu au ciel, elle est faite, elle est accomplie. Là où Dieu est, tout est fait selon sa volonté. Dieu ne vit pas de crise. Dieu, en tout cas, alors je vais le formuler autrement, il n'est pas surpris par la crise qui vient. Ses attitudes intérieures en rapport à la crise ne font jamais de ces crises des moments de dépression, de découragement, de recul. À chaque fois, il y a un regard particulier dessus. Au ciel, il n'y a pas de crise. Donc, notre Dieu gère les crises et ça va nous inspirer. Alors, je vais vous amener sur la première fois où il y a eu une crise dans la Bible. Vous savez, si vous voulez étudier quelque thème que ce soit, retournez toujours et méditez pour retrouver la première fois où il y a une crise dans la Bible. Alors, je vais vous faire participer ce matin. C'est quand la première crise dans la Bible? Dans quel chapitre? Alors, bon, le livre. J'entends pas. Genèse, le chapitre? Ah, non. 3. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Il se trouve que le plan éternel de Dieu est gâché. L'homme et la femme pêchent et c'est une profonde crise. S'il y a une crise, vous savez, la crise des crises, c'est quand même le péché. D'accord? Dieu crée un monde avec une intention d'avoir une communion avec les hommes et une crise se produit parce qu'il a créé l'homme libre de répondre, d'obéir ou de ne pas obéir. Vous savez, la prédication excellente de Anne, dimanche dernier, nous parle de la crainte et de l'obéissance. La clé de la crainte, Abraham a obéi promptement à Dieu. Il craignait Dieu, il est devenu l'ami de Dieu. L'obéissance est une vraie clé. Et là, ils ont désobéi et ça a rompu quelque chose, une profonde crise. Et j'aimerais que nous nous inspirions de ce qui s'est passé quand Dieu vit une crise. Et j'ai médité ce texte, il m'a bouleversé. Il n'y a pas de panique. Est-ce que vous voyez Dieu paniquer dans ce chapitre? Relisez-le. Il descend, il appelle l'homme, et habituellement il répond, et là il ne répond pas, il fuit, il a peur, il s'en va loin. Et Dieu pose 4 questions, même 5 je crois, il pose des questions sans être bouleversé émotionnellement. Quand on lit ces textes, on ne voit pas Dieu en colère. Imaginez son plan éternel, gâché en un instant, par un homme désobéissant qu'il aime profondément, avec qui il veut avoir une communion, il désobéit. Cette désobéissance vient mettre à terre son plan. Mais Dieu panique pas devant, il n'y a pas d'émotion. Il n'est pas en train de dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il ne s'est pas mis en colère, non. Juste il dit, où es-tu? L'homme ne répond pas quand il appelle. Il ne répond pas, il ne le voit pas de suite, il ne court pas vers lui. Moi, je suis persuadé que à la création avant le péché, dès qu'il entendait Dieu arriver, Adam court vers Dieu. Là, il ne court pas. Et Dieu dit, où es-tu? Première question, où es-tu? Il le trouve et il dit, j'ai eu peur, je me suis caché. Il lui dit, mais pourquoi donc t'es-tu caché? Il dit, as-tu, il continue, il dit, as-tu mangé le fruit que je t'ai défendu de manger? Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi à manger me l'a donné. Et vous savez, il continue, même quand il commence à converser, il n'est pas dans un ébranlement émotionnel, il continue, il pose des questions. Et il se tourne vers la femme et dit, pourquoi as-tu fait ça? J'imagine cette scène, je vous invite à rentrer dans cette scène. Si vous êtes un homme, soyez Adam. Si vous êtes une femme, soyez Ève. Vous venez de faire une chose terrible. Les conséquences sont terribles. La mort. Et Dieu vient, il s'approche de toi dans ta crise. Il te dit, où es-tu ? Et il cherche la communion avec toi et il te pose des questions. Pourquoi as-tu fait cela ? Il dit à Ève, pourquoi ? Ève se tourne, vous savez, en général, quand on est dans des crises, là, écoutez-moi bien, c'est très important, au lieu de chercher la faute des autres, si tu veux sortir de la crise, cherche ta propre faute. Adam dit, c'est la femme dit, c'est le serpent. On rejette la faute vers quelqu'un d'autre. Tu veux bien traverser la crise que tu es en train de vivre, quelle qu'elle soit. Il se pourrait même que tu y sois pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute te concernant. Et il s'agit de bien le gérer sur le plan émotionnel. Mais si tu es concerné, parce qu'il y a certaines crises que nous vivons, nous sommes une part, une cause de la raison de cette crise. Il y a des crises que nous traversons, nous avons commis une faute. La crise d'Adam et Ève, c'est de leur faute, c'est leur péché qui produit cette crise. D'accord ? L'une des réponses pour sortir, selon Dieu, de la crise, c'est de reconnaître son tort. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Tu traverses une crise, quelle est ta faute ? La tienne. Ne la repousse pas, ne la rejette pas sur quelqu'un d'autre. Il y a un problème, il y a quelque chose qui a été brisé. Dieu va toujours te renvoyer à une solution. Il va chercher une solution avec toi parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu du recommencement. Il ne se décourage jamais que quelque chose ait échoué. Toujours, il parlera positivement de ton avenir. Si tu te repens, si tu te remets en question, si tu te relèves, il permettra toujours que ce soit une crise de croissance. Vous avez loupé une occasion, je vous dis la vérité. Parce que peut-être que c'est compliqué, peut-être même que tu vois aucune issue, mais toujours Dieu se positionnera à côté de toi en disant, il y a une issue. Il y a une issue. La clé de cette issue, c'est que tu acceptes de reconnaître ta part. Dès que c'est cela, la communion est réconciliée. Dieu, vous savez, à la fin de cette histoire, il tue un animal, le sang coule, il les revêt et il leur promet un avenir. On a dit, ta promesse demeure. Tu peux être au milieu d'une crise la plus noire possible. Ça peut même être, tu as le sentiment que c'est la mort. Mais Dieu vient au cœur de cette crise et il est en train de te dire, si tu reconnais ta part, si tu cries vers moi, si tu t'appuies sur moi, nous allons traverser ensemble cette crise et en faire une crise de croissance. Quand tu en feras une crise de croissance, tu te retourneras, tu dis, oui, j'ai vécu ceci et je t'encourage à toujours raconter dans tes crises ce que tu as fait qui est mal. N'en aie pas honte, n'en aie pas peur, parce que ça ouvre la voie pour d'autres qui sont en train de traverser des crises et qui ont besoin d'entendre que d'autres les ont traversées et que ce qu'ils sont en train de traverser est temporaire. Et quand on s'appuie sur Dieu et qu'on traverse même la vallée de l'ombre de la mort, on traverse, on peut regarder en arrière, célébrer Dieu et appeler les autres à emprunter le même chemin que nous. Le même chemin que nous. Il n'y a pas de crise trop difficile pour notre Dieu. Il n'y en a pas. Il suffit que comme Ève ici, au lieu de dire, bien sûr on va dire, ben oui, il y a eu le serpent qui m'a tenté, mais elle dit, oui, je l'ai trouvé beau, j'en ai eu envie, j'aime bien. Adam, il dit juste, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, mais elle dit, il m'a tenté, mais moi j'ai regardé le fruit, je l'ai trouvé beau, j'en ai eu envie. La convoitise a produit cette crise, la convoitise. Et vous savez, quand elle confesse cela, Dieu ne rentre pas dans l'accusation. Et j'aimerais nous encourager, dans nos relations nous-mêmes, à nos propres crises, de ne pas nous accuser. Et de ne pas accuser quelqu'un qui est en train de traverser une crise, que tu le vois, de ne pas l'accuser. Pose-lui la question, pourquoi tu es là ? Elle reconnaît que c'est la convoitise, et Dieu ne lui dit pas, mais alors la convoitise, alors donc ceci. Bien sûr, il y a des conséquences, mais il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de charge, il n'y a pas émotionnellement de la colère, de la destruction sur eux, non. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Elle reconnaît cela, et il parle au serpent, il est maudit, il parle des conséquences, parce qu'évidemment, il y a des conséquences à nos péchés, à nos fautes. C'est sûr, Jésus a porté une charge, mais en ce qui nous concerne, la femme, il a fallu, ben voilà, il y a des douleurs pour enfanter. il y a de la sueur pour travailler, gagner son pain. C'est les conséquences d'une faute, mais de suite, il y a de la promesse, il y a de la grâce. Il y a le projet de Dieu de réconcilier et de faire cela une crise de croissance. Alors, je vais vous lire un texte que j'aime beaucoup et que j'aimerais que nous puissions nous réconcilier avec ce texte. Parce que je vais vous, juste vous avouer que ça fait partie de ces textes compliqués de la parole. Et on fait souvent on fait souvent des blagues sur ce texte, mais je vais vous le lire. Il s'agit de Jacques 1, 2, 4. Je le lis dans Parole Vivante. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des crises de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les crises, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Je répète ceci. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des crises, des difficultés, des épreuves, de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, Dieu nous éprouve. C'est Dieu qui nous met en crise. Moi, je crois que cette crise sanitaire, Dieu est souverain, il permet cela. Dieu le veut, Dieu crée cela pour des crises de croissance, pour que notre foi soit éprouvée et que nous surmontions cela, que nous devenions parfaits, mûrs, que nous résistions à tout. En fait, c'est comme si il veut nous permettre de nous parfaire, que cette foi soit éprouvée, notre foi, notre vie, nos valeurs, nos convictions, tout en nous, notre caractère soit tellement fort, éprouvé, que ça puisse résister à tout. L'objectif de Dieu dans nos vies, depuis notre enfance, depuis notre conversion, jusqu'à ce que nous retournions au ciel, ce sera crise sur crise. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et Jacques, il va loin, il dit, dès que ça arrive, réjouissez-vous. Non mais attendez, alors, je ne sais pas si dans vos crises, je ne sais pas laquelle vous avez choisi pour dire, parce qu'on peut traverser plusieurs crises, vous savez. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans trois crises différentes. De croissance, choisissez-en une et dites amen. Ô Seigneur, c'est toi qui as permis cela pour que je grandisse. C'est toi qui as permis cela pour que je me développe. C'est toi qui as permis cela pour que ma foi soit affermie, qu'elle devienne encore plus solide. C'est comme de l'or, il dit, c'est pas mal, c'est brut, je le mets dans le feu, je veux que ça devienne mais complètement pur, que ça prenne encore plus de valeur. Plus l'or est purifié, plus ça a de la valeur. C'est exactement le regard du Seigneur sur les crises dans lesquelles chacun de nous nous sommes. Lui, il dit, je suis en train de l'éprouver, je suis en train de le purifier, je suis en train de lui donner de la valeur à sa foi, parce qu'il va s'appuyer sur moi, et toutes ces épreuves, lorsqu'il les aura surmontées, il deviendra parfait, un joyau de l'or purifié, quelque chose de valeur à mes yeux. Le regard de Dieu sur les crises n'a rien à voir avec nos regards. Toujours c'est positif. On ne peut pas remettre en question la motivation de Dieu de sortir le meilleur de nous. Par contre, pendant qu'on le traverse, oui, il y a quelques larmes. Mais notre regard, si ça aligne sur le regard de Dieu, notre attitude envers l'épreuve, notre attitude envers la crise, notre attitude envers la saison dans laquelle on est, ça va tout changer. Et si nous réussissons à lire cela comme cela, les gens vont se tourner vers nous, mais qu'est-ce que tu as donc que je n'ai pas? Si le croyant réagit exactement pareil que le non-croyant, il n'a rien à lui partager dans la vraie vie, dans les vraies épreuves. Parce que vous savez, c'est quand on est éprouvé qu'on sait réellement qui on est, la valeur qu'on a. Dieu le sait et le monde le sait. Si nous réagissons de la même manière, en fait, on n'a pas de message concret à donner. C'est parce que nous traversons la crise avec quelque chose d'une espérance, d'un regard qui vient de Dieu, qui fait qu'on peut partager aux autres pourquoi on a une espérance qui est différente. Les gens vont nous observer et nous dire, mais toi tu vis ceci, tu traverses ceci, et tu gardes cela, et ce n'est pas de, vous savez, de, comment on appelle ça, de la méthode Coué, ou, le terme m'échappe ici, l'autosuggestion, mais quelqu'un qui nie la réalité. Du déni. C'est pas du déni. Tu arrives à trouver la joie dans l'épreuve. L'épreuve, quand elle arrive, tu es dans la... Parce que tu sais, ta lecture de la crise, c'est, la croissance arrive. Le développement arrive. L'occasion que mon caractère soit transformé arrive. Et vous savez, ma crise de la quarantaine, c'est exactement comme ça que je l'aborde. De la cinquantaine. Mais parce que la Bible nous dit, il nous rajeunit comme l'aigle. Même dans les morts. La crise de la cinquantaine. Vous savez, des moments, il y a des gens à ce moment-là peuvent aller loin, faire des choses qui donnent une mauvaise lecture à ce qu'ils vivent. Des gens peuvent se suicider. Les gens peuvent divorcer. Faire des choix de conclusion de ce qu'ils sont en train de vivre. Au lieu de voir une crise de croissance, de transformation de ton caractère pour aller vers ta femme, reconstruire quelque chose, pour réajuster des choses, pour aller plus loin, juste dire « Ah, c'est une belle occasion, je vais pouvoir progresser, aller plus loin », tu tires une sorte de conclusion permanente qui fait une rupture définitive à une situation de crise qui est juste occasionnelle, temporaire. Si ta lecture change, si tu te mets à dire « Waouh, je vais me réjouir de cette épreuve. Je vais me réjouir de cette crise. Je vais trouver le regard de Dieu par rapport à ce que je suis en train de vivre. » Il n'y a pas beaucoup de « Amen ». Mais vous savez, je voudrais que nous arrivions à pas juste dire « Amen ». Vous savez, des fois, on peut dire « Amen » par religiosité et habitude. Mais le « Amen » du cœur, le « Oui » et le « Amen » du cœur qui viennent de là, à la fin de la prédication. Je vais vous citer la crise où l'homme qui a vécu la crise de sa vie, qui est évidemment Job, d'accord? Mais ce qui m'importe ici, c'est de vous amener au regard de Dieu avant que Job soit éprouvé. On est dans Job 1.8, l'Éternel dit à Satan, et c'est Dieu qui vient parler à Satan. C'est même pas Satan, il passe par là, la Bible nous dit, et Dieu lui dit, viens par là. Regarde, j'en ai un là. Il craint Dieu, il m'aime, il est extraordinaire, je suis fier de lui. Ils se mettent à discuter. Et pour moi, toutes les crises peuvent se vivre, une partie de nos crises peuvent se vivre comme cela. À ce moment-là, Dieu dit, il n'y a personne sur la terre comme Job, un homme intègre et droit. Il craint Dieu, ça me rappelle une prédication, et il se détourne du mal. Dieu est fier de lui, et puis finalement, il fait un deal avec le Satan, et ils vont provoquer des crises dans sa vie. Un événement soudain, émotionnellement terrible, qui vient le déstabiliser, la crise. Il perd tout. Vous connaissez l'histoire, mais je la dis quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il perd tout. Ses enfants, sa femme, ses biens, sa santé. Enfin, vous voyez ? Crise. Soudain. Et il ne sait pas le deal que Dieu a passé avec Satan. Les crises que nous vivons très souvent, Dieu permet à ce que le diable touche nos vies pour nous éprouver, pour que nous soyons gagnants. S'il vous plaît. Si nous le savions, nous ne réagirions pas de la même manière aux épreuves, aux crises que nous vivons. Une crise, c'est quand même... Comment ne pas dire, mais il est où Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je vis ce que je vis? Job ne le savait pas. À la fin de l'histoire, c'est extraordinaire. Il est restauré de manière extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une promotion. Il est allé plus loin, il a grandi, il a connu Dieu. C'est-à-dire que ça lui a permis de découvrir des choses qu'il n'aurait jamais vécues si il n'avait pas gardé une bonne attitude et il n'avait pas traversé pour que nous, aujourd'hui, nous puissions, au travers de sa vie, apprendre. La Bible, c'est juste l'histoire de personnes qui ont traversé des crises, qui ont eu de bonnes attitudes, qu'il nous faut imiter, pour traverser, suivre leur pas, trouver Dieu, grandir, se développer et célébrer avec lui. Pouvoir à l'avance maintenant. Ce que je souhaiterais à la fin de cette prédication, à l'avance. Tu regardes ta crise et tu dis, Seigneur, je me réjouis. Alléluia. Je me réjouis et j'ai une bonne attitude envers. Si j'ai une part dans cette crise, je demande pardon, je reconnais mon tort, je te laisse me toucher, je demande ta force et tu vas m'aider à traverser pour que même si j'ai péché, tu m'as pardonné, je me relève, ça va devenir une crise de croissance. Je vais pouvoir en parler comme une crise de croissance. Oui, c'est une crise. Mais il faut que nous la transformions en une crise de croissance. La Bible nous dit dans le psaume 84, ceux qui s'appuient sur Dieu traverse la vallée de Baca. Baca veut vraiment dire pleure. Tu t'appuies sur Dieu, tu comptes sur lui, il va t'éprouver. Ça fait partie du programme. Ça fait partie de l'un des moyens par excellence que Dieu nous transforme. C'est son choix. Il faut que tu le saches. Presque à chaque fois que ça vient, je suis prêt, on y va. J'ai une bonne attitude, je tire des leçons et j'y vais. Et donc ça fait partie du programme. Quand ils traversent, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui sont justes, ceux qui sont chrétiens, traversent la vallée de Baca, ils pleurent. Quand ils pleurent et ils pleurent chaudement, eh bien la Bible nous dit qu'ils sont capables de la transformer en un lieu plein de sources à cause de leur appui sur Dieu, de leur lecture de ces crises avec le regard de Dieu. Oh Seigneur, t'es avec moi et tu vas me permettre de transformer ce lieu où je pleure en un lieu plein de sources. Et un jour, parce que je sais que c'est temporaire. Le grand souci que nous avons, vous savez c'est quoi? C'est que quand on y est, on a l'impression qu'on va y rester et que ça va durer toute la vie. On sait pas ou on se dit pas, c'est temporaire. Une crise, c'est toujours temporaire. Le temps qu'on a le droit d'être secoué. On a le droit que pendant un temps, on soit bousculé. On a le droit, on est humain. Mais il arrive un moment où tu te réajustes et tu te souviens. Tu prends du recul, tu te souviens. Ah, ok, ça fait partie de l'école. Ça fait partie de la formation. Dieu a choisi ce moyen. Peut-être que vous et moi, on n'aurait pas choisi ça, d'accord? Peut-être. Mais lui, dans sa souveraineté, il a choisi que la souffrance, l'épreuve, les choses qui touchent nos corps, nos âmes, nos esprits, même nos relations, soient éprouvées. Et à chaque fois, il se peut bien que dans nos relations, on ait une part, le reconnaître, le régler, se relever, s'appuyer sur lui. À chaque fois, il est pour toi. Il te soutient. À chaque fois, il rappelle l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Cet animal qu'il a sacrifié, c'est Jésus. Il te le rappelle. À chaque fois que le péché est là ou tes difficultés sont là, il dit, souviens-toi de ce qui a été accompli. Relève-toi et je te fais la promesse. Tu vas traverser. Je te fais la promesse. Tu vas réussir à passer de l'autre bord et à devenir encore plus fort pour aider tous ceux qui sont en train de traverser comme toi. Alors, moi je crois que cette pandémie est utilisée par Dieu comme la persécution a été utilisée par Dieu pour que l'Église primitive accomplisse sa mission. Jésus a dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Et puis l'Église était dans le confort. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ils ont vécu un réveil. Ils étaient bien ensemble, c'était extraordinaire. Et ils ont oublié la mission. Et le seul moyen que Jésus a trouvé pour que sa volonté soit faite et que eux soient transformés, c'est une persécution. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, oui. Le Jacques qui écrit, il comprend ça. Et tous les disciples savaient qu'ils seraient persécutés, Jésus l'avait annoncé. Mais on ne choisit pas d'être persécuté, tu comprends? C'est Dieu qui, dans sa souveraineté comme pour Job, dit, c'est le moment, la méchanceté des hommes, l'opposition va s'activer, je vais l'autoriser, et ils vont se mettre à faire du mal à mes enfants. Enfin, vous voyez, c'est... Et la persécution s'enclenche selon la volonté de Dieu, c'est un fait. Que Dieu autorise, ça ne veut pas dire que Dieu est méchant, ça veut dire que Dieu se sert de cela pour nous transformer, pour nous conduire à lui ressembler et faire sa volonté. Dieu a une volonté et ce n'est pas toujours en adéquation avec nos désirs. Ce que nous souhaiterions, c'est le confort. Peut-être des fois même, nous adorons le Dieu qui donne le confort ou nous adorons le confort. On dit, si tu m'aimes, tu vas me donner du confort, de la sécurité. Et les choses ne vont pas changer. Si tu m'aimes, tu ne me donneras pas des crises. Alors que lui, il dit, si je t'aime, je te donne des crises, pour ton bien. Vous savez, une église en confort est en danger. Pour accomplir la mission, pour être témoin, eh bien, vous savez, il a juste dit, je vais envoyer de la persécution, et puis je vais vous lire ce texte, parce que je ne suis pas en train de parler de moi-même ici. Il dit dans Actes 8, 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous... quand même très fort, tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc c'est une église qui était à Jérusalem. Donc ça, c'était, ils ont été témoins, ils ont accompli la mission à Jérusalem d'être des témoins. C'était puissant, il y a un réveil, des gens se sont convertis, des milliers, je ne sais pas combien de milliers se sont convertis, même des gens qui venaient de l'extérieur. Donc ils s'étaient dit peut-être que les extrémités de la terre, ce sont les étrangers, la diaspora juive qui revient, qui se convertit, qui repart. C'est pas eux. Et j'ai dit non, non, non. Vous de Jérusalem, je vais vous envoyer. Vous allez obéir. Mais pourquoi ne pas leur dire par révélation ? Peut-être même qu'il a fait par révélation, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu de la persécution pour obliger les chrétiens à aller en Judée et les chrétiens à aller en Samarie. Ce n'est pas encore les extrémités de la terre, mais on apprend que Philippe se lève à cause de la persécution, se met à prêcher. Parce que la vie qu'ils ont reçue, partout où ils allaient, ils la répandaient. Donc la mission évangélique, la mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, c'est ça que Jésus leur confie quand il s'en va. Ils n'ont pu y rentrer que parce qu'il y a eu de la souffrance. Il y a eu une crise. On aime Dieu, on est bien ensemble. Et d'ailleurs, le peuple les louait pendant un temps. Tout était bien. Ils avaient la faveur. Tout se passait bien. Puis à un moment, il dit, oups, ils vont s'enfermer, s'endormir dans le confort. Je vais leur envoyer une persécution. Et pour ma lecture de ce que nous sommes en train de vivre, cette maladie est pour que nous, chrétiens, nous sortions de notre confort. Qui est d'accord avec moi ? Nous allons devoir nous repentir d'une approche confortable de l'Évangile. L'Évangile n'est pas confortable. Le confort est le tombeau des héros de la foi. Celui qui accepte cela et qui accepte de s'endormir et qui défend son confort, qui défend sa sécurité, même dans la prière. Il va nous falloir faire attention à ce qu'on demande à Dieu. On ne peut pas demander à Dieu un confort qu'il est en train de lui-même combattre. On ne peut pas demander à Dieu une sécurité qu'il est en train de combattre. Il veut produire l'élan missionnaire, il veut produire d'aller avec la vie qui est en toi. Il faut que la vie qui est en toi supporte d'aller en Judée, d'aller en Samarie. Il faut que la vie qui est en nous supporte d'aller en dehors, de vivre le culte comme nous sommes en train de vivre ici avec des masques. Imaginez que cette vie qui est en nous se traduise par un réveil en dehors des quatre murs de l'Église. Parce que nous n'y arrivons pas de nous-mêmes, même si on l'entend, on le comprend, ça prend ce genre de choses. Et je voudrais vous annoncer que si ce que je suis en train de dire est vrai, si nous ne nous bougeons pas assez, il va y avoir autre chose encore. Jusqu'à ce que nous comprenions que la crise, elle arrive. Alléluia. Je suis dans la joie. Parce que je vais grandir. Sinon, quand on va arriver au ciel et qu'on va faire les comptes, ça va être compliqué. Il veut que nous accomplissions sa volonté. Il veut que nous accomplissions sa volonté. Sa volonté, pour qu'elle s'accomplisse, ça passe très très souvent par l'opposition de notre confort, de nos raisonnements, de nos sentiments, de nos désirs. On a un schéma, moi je sais et je me repens pour un évangile occidental qui ne correspond pas à l'évangile de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de confort. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de moi devant, il y a beaucoup de développement personnel, il y a beaucoup d'accomplissement, moi, et pas assez sa volonté. Si c'est sa volonté, il y a un renoncement, il y a une souffrance. La souffrance doit être accueillie, on doit être prêt à souffrir. Jacques, 1 Pierre 4, 1 nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir, c'est-à-dire soyez prêts dans vos pensées chrétiens de souffrir, que ça fasse mal, que ça touche le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit, que tout ce qui est en toi, ce que Dieu t'a donné, soit touché dans le but de ressembler à Jésus et d'être ferme, d'être solide, d'être comme l'or éprouvé. Je suis solide, pas parce que je suis en confort, je suis solide parce que je me suis laissé transformer par Dieu. Et que j'ai dit oui aux crises. J'ai dit oui aux crises. Alors, je voudrais finir. Parce que je pense qu'on y reviendra. Je voudrais finir par dire que chacune des personnes qui ont compris ce que je suis en train de dire, qui ont capté le cœur de Dieu, que la souffrance n'est pas un abandon, une sorte de méchanceté de Dieu, quand tu le comprends et que tu te réjouis et que tu te laisses transformer, ça se finit par une promotion. Et les exemples sont foisonnants dans la parole. David, Dieu lui dit, tu seras roi. Et puis quand même, pendant 13 ans, c'est que des épreuves, c'est que des crises. L'onction vient sur lui, oh là là, il sent ça, il joue, les démons fuient. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis juste après, c'est que persécution, persécution. Il est persécuté. Mais c'est pour le préparer. Et quand son attitude de cœur reste là pendant 13 ans, parce que des fois on se dit, tiens, une fois, deux fois, trois, 13 ans, au bout de 13 ans, tu es prêt. Et c'est Dieu souverainement qui décide que la personne dont il s'est servi pour le former et le persécuter, bon ben, il meurt. C'est Dieu lui-même qui donne fin à sa vie et qui lui donne accès à la promotion pour laquelle il lui avait déjà dit à l'avance, tu seras roi. Et vous savez que tous ici, nous sommes appelés à être des rois. Vous avez bien fait de dire amen. Parce que ça, c'est très positif et confortable, on aime bien. Mais je vous dis, préparez-vous à la persécution. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de couronne sans souffrance. Dieu ne peut pas confier la gouvernance des âmes, des personnes précieuses à des gens qui ne sont pas formés. Donc, oui, tu es appelé à ça, mais il y a 13 années de persécution, de souffrance, de crise, où tu te dis, mais pourquoi ? On le lit, hein, David, il dit, mais mon âme te cherche. Et puis, il a une lecture de ses souffrances, il sait que c'est Dieu qui est en train de le former. Et quand il est prêt, à l'âge de 30 ans, comme Jésus, Dieu lui dit, c'est bon, j'ouvre la voie, promotion. La finalité d'une crise de croissance, c'est une promotion. Tu traverses la crise et ce n'est pas une, deux, trois, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés dans la parole pour David, mais promotion, il est devenu véritablement roi, selon le cœur de Dieu, parce qu'il y a eu cette lecture de la crise, c'est Dieu qui est en train d'agir, il est souverain. Et je ne prendrai pas par ma propre force ce que lui doit me donner. Dieu lui expose son persécuteur sur un plateau, au lieu de le tuer lui-même, il dit, c'est Dieu qui va le faire. Et du coup, il accepte que ça dure 13 ans. Et on peut citer comme ça Joseph, enfin, vous connaissez l'histoire. Joseph, Dieu lui dit, tu seras prince, tu seras roi, on se prosternera devant toi. Mais lui, c'est 17 ans. D'accord ? C'est très long. Et du coup, formation, persécution, Potiphar, la prison, c'est long, c'est long. Mais quand la lecture n'est pas en opposition, ton cœur est ouvert et tu es patient. Parce que, vous comprenez, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an. C'est des années. Et l'épreuve, nous, c'est un cadeau. Rendons grâce à Dieu pour les épreuves. Et analysons d'une bonne manière toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés. Tu as été malade ? Où est Dieu dans cette affaire ? Bien sûr qu'il faut résister au diable. Vous savez, il ne faut pas non plus... C'est pour ça que ça prend de la crainte de Dieu, ça prend du discernement pour bien lire. Parce qu'à des moments, il faut résister au diable. La Bible nous dit ça. Hein, il veut nous dévorer. Et à des moments, il y a des choses qui viennent. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Donc il faut un esprit fort. Mais il est d'abord dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Quand c'est Dieu qui le fait, vous savez, quand c'est Dieu qui le fait, il faut dire amen et se réjouir. C'est lui qui le fait. Mais quand le diable est dedans, il faut savoir le discerner et le chasser, le résister. Mais vous ne pourrez pas chasser la main de Dieu. Vous ne pourrez pas chasser la main de Dieu. L'onction grandit quand on accepte, quand on lit les crises comme Dieu les lit et nous les envoie. Je vais finir par citer simplement Caleb. Le peuple d'Israël, Dieu lui dit, vous êtes mes fils, je vous donne Canaan, ils sortent d'Égypte. Et puis, il y a des crises. Il y a des géants. C'est brutal. Non, je pensais que ce serait facile. Je pensais que ce serait tout cuit. Mais non, il faut garder une bonne attitude, lire les choses. Caleb, il a dit, mais non, mais Dieu est avec nous, il le sait, on va traverser, on va aller combattre, on va gagner, c'est sûr, ça ne va pas être facile. Mais parce qu'on s'appuie sur Dieu, il va nous donner. Dieu est touché par cette attitude. Dieu les éprouve. Et il dit ceci, Nombre 14, 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants posséderont l'héritage. » Il a demandé une montagne. Si tu veux cela, ça va prendre quelque chose d'une attitude, celle de Caleb. Je vous propose que ceux qui veulent répondre au Seigneur ce matin se lèvent simplement. Et on va dire au Seigneur, on veut lire les crises, la crise dans laquelle nous sommes, les crises que nous traversons. On veut les traverser avec toi. nous appuyons sur toi, en considérant que tu es en train de former notre caractère. Tu es plus intéressé par la transformation de notre caractère que par notre confort et notre sécurité. Et nous te disons oui, nous voulons vivre cela avec toi. Nous te disons oui. Je veux qu'on prenne un moment pour nous réconcilier avec Dieu. Il y en a plusieurs ici qui sont fâchés. Dans le sens, ils ne sont pas en paix. Ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne se mettent pas d'accord avec Dieu par rapport à sa méthode pour nous transformer. Vous avez votre propre schéma. Un disciple ne dit pas au maître ce qu'il convient de faire. Et nous venons, nous fléchissons le genou, en disant tu es le maître. Tu t'es donné par amour pour nous, mais tu es notre maître, tu es notre Seigneur. Et nous disons oui. Nous disons oui. Nous nous mettons d'accord avec toi. Tu as raison. Tu es bon. Tu veux le meilleur pour nous, mais ce meilleur, même si nos conceptions ne sont pas d'accord et s'y opposent, nous disons oui ce matin. Nous voulons que notre foi soit éprouvée, mais que cette foi prenne du poids, prenne sa fine et vraiment de l'autorité parce que nous nous soumettons à toi. Oui, Seigneur. Nous voulons obéir. Oui, nous voulons faire ta volonté, pas la nôtre. Nous voulons que ta volonté soit faite sur cette terre. C'est pourquoi trouve ici des serviteurs, trouve ici des amis qui cèdent à ta volonté, trouve ici ceux qui disent oui, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons lire cette crise, cette saison, en acceptant d'être transformés, en acceptant d'être ajustés, que nos mentalités changent. Nous disons oui. Nous disons oui, même si émotionnellement nous sommes bousculés, nous disons oui dans nos êtres intérieurs, au plus profond de nous, nous te disons oui, Seigneur. Et le dernier mot est accès à nos cœurs, à nos volontés, à nos émotions, à nos pensées. Je te prie, renouvelle-les profondément. Alléluia. 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 Viens tracer un chemin, viens ouvrir un chemin. Oh notre Dieu, toi qui es souverain, qui as autorité sur toute chose, fais-le au temps convenable. Nous voulons que ce soit dans ton temps, selon ta volonté et pour ta gloire. Viens nous aligner profondément. Ton Église dit, nous voulons nous soumettre à toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur. Et nous nous repentons d'avoir finalement fait de nos désirs, de nos attentes, de notre confort un Dieu. Nous nous repentons et nous voulons te servir. Nous voulons qu'il y ait un sacrifice dans ta maison. Alléluia. Le sacrifice de nos vies, de nos corps, le sacrifice de nos volontés, de nos choix, de nos priorités. Mais envers ta priorité et ta volonté, ton Église se soumet à toi dans l'adoration, avec amour. Parce que Seigneur, nous comprenons ce matin que ton intention, c'est notre bien, c'est notre bien.